Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition en vous rappelant, en vous apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore, musicale, probable, improbable, pertinente, impertinente et toutes ces sortes de choses, les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis le 19e siècle. Bah oui, 1895, c'était au 19e siècle, messieurs, mesdames. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons rendre un bref hommage à un compositeur italien né en 1913, mort en 2002, peu connu. Quand on dit compositeur italien, on pense évidemment à Nino Rota ou bien sûr à Ennio Morricone, qui d'ailleurs croisa la carrière de notre hommage de ce jour, mais Mario Nascimbene, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est moins connu, je m'en doute, même si entre les années 50 et 60, il signa la partition de quelques grandes super productions que nous allons égrener tout au long de cette émission. Mais nous allons commencer par un film tourné en 1954 par rien moins que Joseph Mankiewicz, l'un des réalisateurs les plus raffinés des années 40 et 50 et qui auparavant fut un scénariste lui aussi très raffiné, qui en 1954 mettait en vedette rien moins qu'Humphrey Bogart et Ava Gardner dans un de ses films comme Hollywood les adore, c'est-à-dire un film auto-réflexif ou Hollywood film Hollywood, en l'espèce la carrière, l'ascension et la chute de Maria Vargas, interprétée donc par la sublime Ava Gardner sous les yeux de Harry Dawes, interprété par Humphrey Bogart. Personne n'aura oublié la scène d'ouverture de ce film où l'on voit l'enterrement de la dite Maria sous la pluie avec Humphrey Bogart, avec l'air d'Humphrey Bogart. Le reste était un mélodrame absolument flamboyant. Et donc, pour l'occasion, c'était Mario Nascimbene qui, d'après ma petite fiche, ne signait là que sa quatrième partition, ma foi, pour une grosse production. C'est Mario Nascimbene qui s'était chargé de la musique. On en écoute un petit extrait de Barefoot Contessa in English, la comtesse au pied nu 54 dans 24 notes secondes. Un bien court extrait de la bande originale de La Comtesse aux pieds nus, 54, Joseph Mankiewicz, une musique de Mario Nascimbene, auquel nous consacrons notre émission de ce jour. Ces deux-là se retrouvèrent en 1955 pour un autre film donc de Mankiewicz, Un Américain bien tranquille, d'après Graham Greene, dans mon souvenir. Passons maintenant à un autre film. J'ai évoqué les grandes superproductions hollywoodiennes des années 50, 60. Et dans les années 50, 60, eh bien, on ne jurait que par le péplum tourné quelque part en Italie, parfois en Espagne, pour d'obscures raisons de déduction fiscale et qui donnait l'occasion aux scénaristes hollywoodiens de revisiter la ô combien riche histoire grecque, latine et en l'espèce macédonienne, puisque le film que nous allons évoquer maintenant, c'était Alexander the Great, tourné en 1956 par Robert Rossen. Alors Alexandre, qui fut empereur entre l'âge de 20 et de 32 ans et dont les mœurs sexuelles étaient, comment dire, un peu particulières, ou en tout cas diverses, voilà, particulières et malvenues, diverses l'est peut-être un peu plus, eh bien Alexandre était incarné à l'écran, et c'est pour ça que je le soulignais, par Richard Burton, que peut-être on n'aurait pas forcément vu dans ce rôle, de même qu'on n'y aurait pas forcément vu Daniel Darieux, qui était charmante en jupette, mais sans plus. D'autres aussi, Frédéric March, Claire Bloom, Stanley Baker et même l'inoxydable Peter Cushing se joignaient au casting de cette super production que son réalisateur avait prévu pour un film de 3 heures avec un interlude et qui finalement, producteur, manipulant et danseur, réduisit à 2h20 d'une... Un péplum qui n'était peut-être pas le plus original du siècle. Un petit mot aussi sur Robert Rossen, réalisateur américain, né en 1908, mort en 1966 et qui ne tourna qu'une douzaine de films et qui, hélas, est plutôt connu pour avoir été dans les années 50 l'une des principales victimes du McCarthyisme, c'est-à-dire la chasse aux sorcières dont bénéficièrent, si je puis dire là encore, les militants et sympathisants communistes. Et si on se souvient de Robert Rossen, c'est qu'hélas, l'homme livra pendant cette chasse aux sorcières une bonne cinquantaine de noms à la tristement célèbre commission des activités anti-américaines présidée par le sinistre sénateur McCarthy. Voilà, un petit mot d'histoire. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film, Alexander the Great, une musique de Nario Nachimbene. Thank you. bien paisible de la bande originale d'un film qui l'était un peu moins, Alexandre le Grand, tourné en 1956 par Robert Rosten et une musique de Marnio Nachimbene, qu'on va retrouver immédiatement, là encore, dans une musique pour un film à grand spectacle, mais là par contre, un chef-d'œuvre absolu, mesdames et messieurs, Les Vikings, tourné par Richard Fleischer en 1958, avec dans les rôles principaux Kirk Douglas, Tony Curtis et Janet Leigh. Avec ce trio-là, bien forcément, ça ne pouvait être que dans le genre chef-d'œuvre. Ma petite fiche, qui ne ment jamais, dit que c'est un des films préférés de Kirk Douglas, qui est toujours parmi nous, mesdames et messieurs, je tiens à le rappeler. Eh bien, il avait vraiment de quoi être fier, car de fait, Les Vikings, c'est le prototype du grand film d'aventure des années 60, à une époque qui, pour Kirk Douglas, c'était des plus glorieuses, puisqu'en fait, le film se situe entre, excusez du peu, Les Sentiers de la Gloire de Kubrick et Le Dernier Train de Gun Hill de John Sturges, qui lui-même était une sorte de suite au Règlement de compte à Hockey Choral. Bref, un très très grand film avec un duo, si l'on peut dire, Kirk Douglas-Tony Curtis, qui fonctionne à merveille et qu'on retrouvera d'ailleurs dans le Spartacus, là encore, de Stanley Kubrick en 1960. Même qu'on retrouvera Kirk Douglas en compagnie de Richard Fleischer. On l'avait déjà trouvé en compagnie de Richard Fleischer dans Le Vin Milieu sous les mers, d'après Jules Verne, la meilleure adaptation de tous les temps de Jules Verne. Quand je vous aurais dit que le directeur de la photographie était le maître Jack Cardiff, eh bien, il ne vous restera plus. Et quand je vous aurais dit que Janet Leigh et Tony Curtis étaient ensemble, comme qui dirait, et que bref, ça se sent dans le film, il y a une atmosphère particulièrement érotique entre ces deux-là. Nous sommes en 1958, malgré tout. Bref, quand je vous aurai dit tout ça, eh bien, vous n'aurez plus que deux envies. Un, vous précipiter pour voir le film. Deux, écouter un extrait de la bande originale. Alors, cette seconde envie, je peux la satisfaire, mais là, immédiatement, tout de suite, dans 24 notes, seconde. Voilà, ça finit un peu abruptement. Ceux qui l'auront vu n'auront pas oublié la main coupée de Tony Curtis. Ils n'auront pas oublié l'œil crevé de Kirk Douglas. Ils n'auront pas oublié ce même Kirk Douglas marchant sur les rames des Drakkars. Bref, Les Vikings de Richard Fleischer, 1958. C'est quelque chose comme l'archétype du film d'aventure des années 60 et ça n'a pas pris une ride. Je vous le jure, je vous l'assure, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. J'ai sous les yeux Kirk Douglas assis sur un fauteuil façon Game of Thrones, si vous voyez ce que je veux dire, avec des peaux de bête. Son œil crevé me regarde quand même. Brouh, il est terrifiant. Un très très grand film et une belle musique de Mario Nachimbene auquel nous consacrons notre émission de ce jour. Et là, on va passer à un genre tout à fait différent puisque nous allons écouter un extrait de la bande originale d'un film de Valerio Zurlini tourné en 1959. En italien, ça s'appelle Estate Violenta. En français, du coup, ça s'appelle Un été violent. On y retrouvait dans les rôles principaux Eleonora Rossi Drago et Jean-Louis Trintignant. C'était l'époque des coproduction franco-italienne plus ou moins probable pour une histoire qui se passait durant l'été 1943 et qui, de fait, je vous vois venir rappeler un peu le fameux été 42 avec la musique de Michel Legrand, puisqu'on y voyait un jeune homme, évidemment Jean-Louis Trintignant, tombé follement amoureux d'une jeune veuve de guerre, évidemment Eleonora Rossi Drago, une actrice née en 1925, je ne devrais pas le dire, mais elle n'est plus là, hélas, puisqu'elle nous a quittés en 2007 et qui connut une petite gloire dans les années 30-40, essentiellement dans les années 30-40 et essentiellement en Italie, où elle fut l'interprète, sinon la muse de Luigi Comencini, d'Augusto Genina et de quelques autres, et surtout de Michelangelo Antonioni, pour lequel elle tourna dans Femmes entre elles, les Amiche, en italien là encore, en 1955. Ensuite, eh bien, sa carrière connut des hauts et des bas, et Un été violent se situe plutôt dans ses derniers grands films. Voilà, c'était une occasion d'évoquer une actrice sans doute peu connue de ce côté-ci des Alpes, c'est bien cela. Allez, on écoute un petit extrait de la bande originale de ce film, Un été violent, Estate Violenta, Mario Nachimbene sur Divergence FM. Voilà, une différente illustration de la palette de Mario Nachimbene pour un extrait de la bande originale d'Un été violent. Et nous allons revenir au péplum en écoutant un extrait de la bande originale, cette fois d'un film de King Vidor tourné en 1959. Salomon et la reine de Saba, un film qui connut un destin pour le moins étrange, puisque au départ, il devait réunir Gina Lollobrigida, la reine de Saba, vous en seriez douté, et Tyrone Power dans le rôle de Salomon. Sauf que Tyrone Power mourut d'une crise cardiaque le 15 novembre 1958 en plein milieu du tournage de la scène finale de ce film, qu'il fallut lors reprendre en entier avec cette fois Yul Brynner dans le rôle principal. C'est ainsi que le cinéma se fait, mesdames et messieurs. À leur côté, il y avait George Sanders et quelques autres vieux routiers du cinéma américain. Un péplum qui n'est peut-être pas du meilleur tonneau, mais Yul Brynner, Gina Lollobrigida, c'est comme Tony Curtis et Janet Leigh, ça ne se refuse pas. De même que la musique de Marion Achimbene, dont nous écoutons un petit extrait. Voilà, une illustration assez magistrale de la palette puissante de Marion Achimbene, auquel nous consacrions bientôt cette émission de 24 notes secondes. Alors je vous ai dit assez peu de choses sur la vie du susdit. À vrai dire, j'en sais assez peu et souvent, eh bien, un artiste se définit par son œuvre. En l'espèce, j'espère vous en avoir offert une relativement fidèle illustration. On va écouter encore un dernier extrait avant de se quitter. Sachez qu'ensuite, dans les années 60, eh bien, la carrière de Marion Achimbene, connue sinon une éclipse, du moins s'attela à des productions moins prestigieuses. Il est vrai que les années 60, ce furent aussi, le celle du triomphe de la télévision, à laquelle d'ailleurs Marion Achimbene collabora par le biais d'une étroite collaboration avec Roberto Rossellini. C'est assez étrange, puisque à ma connaissance, Marion Achimbene n'avait pas collaboré avec Rossellini cinéaste, mais il collabora avec Rossellini téléaste sur cet ambitieux projet de Rossellini de raconter à la télévision la figure de quelques grandes personnalités comme Descartes, Socrate, Saint-Augustin et Blaise Pascal. Tous téléfilms, vous l'avez compris, dont la musique était signée du dit Marion Achimbene. Nous allons nous quitter en écoutant, eh bien, là encore, la bande originale d'un péplum, à nouveau d'ailleurs du grand Richard Fleischer, un réalisateur bien mésestimé. 1962, c'était le crépuscule du genre. Barabbas, puisque c'était le titre du film, réunissait dans les rôles principaux Anthony Quinn, alias Barabbas, Victoria Gassman et Silvana Mangano. Il y avait aussi quelques solides second rôles. Il y avait évidemment Dieu, quelque part, et Mario Nachimbene à la baguette. J'ai honte. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye. Thank you.